Il est 23h09 sur Europe et vous êtes sur votre libre antenne. On accueille Aline maintenant au 39-21. Bonsoir Aline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Aline et quel âge avez-vous?
J'appelle d'Alsace et j'ai 53 ans.
D'accord.
Bientôt, au mois d'octobre.
Bientôt 53 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Aline?
Ce qui m'amène, c'est que j'ai écrit un livre. C'est une autobiographie.
Oui.
Et parce que j'étais une femme battue, et puis que je suis également née sous adultère, et que ça m'a porté une enfance assez difficile par rapport à ma grand-mère qui ne supportait pas que je porte le nom de mon père, et puis que j'étais toujours baffée.
Alors, racontez-moi ça dans le détail, en fait, avant que nous passions à la phase. De femme battue, cette naissance, en fait, elle se fait dans quelles conditions exactement?
Alors, ma maman était également une battue. Et, elle était mariée avec quelqu'un qui picolait.
Oui.
Et donc, elle était battue jusqu'à lui casser la clavicule. Mon papa, lui, était marié avec une femme qui était volage et qui enchaînait. Et mon père était cocu, tout simplement. Voilà. Et donc, mes parents se sont rencontrés. Et puis, suite à ça, ils ont fusionné et je suis née. Enfin, je suis née, entre guillemets, j'étais pas encore née, mais à l'époque, je suis née en 1968. Et le divorce, c'était pas encore, c'était mal vu. Et donc, ils ont fui. Quand ma mère est tombée enceinte,
oui.
Ils ont fui tous les deux, ils ont quitté parce qu'ils habitaient le nord. Et ils ont fui, ils sont partis dans le sud où je suis née à Cavaillon.
D'accord.
6 mois après ma naissance, mes parents sont remontés dans le nord. Et puis ma mère a été rejetée, il ne restait plus que son père. Mon grand-père l'a rejetée du coup parce que elle avait... mal fait d'avoir trompé son mari, d'être partie. Elle avait mal fait alors qu'il n'avait pas compris qu'elle était battue et puis qu'elle était en sécurité avec mon père, qu'elle était bien.
Mmh.
Et quand ils sont arrivés chez ma grand-mère paternelle, elle aussi, mon père est arrivé, voilà, j'ai une petite fille en plus. Et je veux bien la voir, mais je ne veux pas voir... ma mère, elle voulait pas la voir. Et lui, il lui a dit, si tu veux pas la voir, tu verras personne. Puis finalement, elle a cédé. Donc je suis arrivée, mais ma grand-mère m'a jamais aimée. Et à chaque fois qu'il y avait un petit truc, c'était moi qui se prenais une baffe. Donc je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'autrement, il y a plein de choses à raconter, puisque j'en ai fait un livre, et qui m'a servi de thérapie, et même de beaucoup, c'est bien. J'ai pu ce fardeau de toute ma vie. Et tout allait bien. Mes parents ont acheté une maison. Et puis, suite à ma naissance, il y a encore eu une petite sœur et un petit frère. Tout allait bien jusqu'à ce que mon père se mette à boire. Et que, après, forcément, quand on boit, ça ne va plus dans la famille. Hein. L'alcool, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Et... Donc, on était une famille recomposée. Donc, il y avait encore mes deux sœurs aînées du premier mariage de ma maman. Et puis, nous, moi, ma petite sœur et mon petit frère, avec mon papa et ma maman, dans cette maison. Et un jour, mon père a essayé d'abuser d'une de mes sœurs du premier mariage à ma maman. Et j'ai été témoin. Et témoin oculaire, pas visuel. Et il y a eu un divorce derrière tout ça. Mon père a toujours renié les faits. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas folle. Le juge m'a dit, tu apprends bien à l'école? Je lui ai dit oui, mais à l'époque, non, j'étais un âne, j'apprenais pas, enfin, je pouvais pas apprendre puisque... Dans la maison, ça n'allait pas avec l'alcool et papa et qui discutait avec maman. Enfin voilà, donc je pouvais pas être une étoile à l'école, tout simplement. Et même que j'allais à l'école en ayant mal au cœur, non pas mal au cœur parce que je pleure ma grand-mère ou je ne sais qui, je pleurais, j'avais mal au cœur, j'avais un point au cœur parce que je ne dormais pas assez.
Oui.
À cause des circonstances de la maison.
C'était très angoissant pour vous, cette ambiance.
Oui, oui, j'avais même quand j'allais me coucher, j'avais l'impression d'avoir quelque chose en dessous de mon lit. Je ne fallait pas, surtout pas que mon pied ou ma main dépasse parce que j'allais me faire manger. Je vivais tout le temps dans l'angoisse. Et suite à cette... mon père a essayé d'abuser de ma sœur aînée. Je dis à ma maman, papa, il a fait quelque chose à Caroline. Je reprends le prénom que j'ai mis dans mon livre parce que j'ai changé les prénoms de tout le monde dans mon livre afin de ne pas avoir de préjudice avec la famille ou je ne sais qui. J'ai changé tout le monde, l'identité.
Vous avez bien fait.
Voilà. Et donc, Caroline, je dis, papa a fait quelque chose à Caroline. Mais non, que veux-tu qu'il lui fasse ? Je dis, si, il lui a fait quelque chose. Et donc, ma maman est allée dans la chambre de Caroline. Et puis, en ouvrant la porte, Caroline a sursauté. Et c'est là que ma mère, elle a dit, pourquoi elle sursaute ? C'est qu'elle est dans la peur, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, je les ai entendus chuchoter. Et ma mère est sortie de la chambre, a traversé le couloir, et en traversant le couloir, elle passait devant ma chambre, ma porte était restée ouverte, grande ouverte. Et je l'ai vue taper du poing sur le mur en disant « Ah, il a fait ça, il a fait ça !» Et moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» J'avais 12 ans. Et bref, à 5 heures du matin, j'entendais, à la force des choses, parce qu'il était tard. À 5 heures du matin, j'entends encore des chuchotements dans la cuisine et je finis par m'endormir, mais on me réveille. Ma maman me réveille. Et elle me dit, descends. Tu as entendu ton papa qui a fait quelque chose à ta sœur ? Oui. Eh bien, on va porter plainte contre ton père, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il avait fait.
Vous n'avez rien entendu ?
À 12 ans, on ne sait pas ce que c'est que
oui,
le sexe.
Oui, oui.
En plus, à l'époque, ma mère était... Je ne savais même pas qu'on était réglé. Et je l'ai su par les copines parce que ma mère était très pudique. Elle était très réservée là-dessus. Voilà. Donc, le sexe, c'était tabou. Par exemple, à l'époque, on regardait aussi... comment c'était ? Une série avec les Juifs. Et quand on les voyait tout nus sous la douche, il fallait qu'on ferme nos yeux parce qu'on ne devait pas regarder les gens tout nus. Tout simplement, ma mère était très pudique, très... Il ne fallait pas qu'on se lâche et c'était complètement bête de sa part parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Bon, après, je ne peux pas lui reprocher. C'est comme elle était, point. Excusez-moi, donc j'ai perdu un petit peu le fil.
Votre maman dit qu'elle va porter plainte contre votre père.
Voilà, c'est ça, voilà. Donc, je me retrouve le matin au commissariat. Et donc, je dis ce qui s'est passé durant la soirée. Je décris tout. Et j'ai fini. Il y a un autre policier qui arrive derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé ma matinée à décrire ma soirée pour voir si je disais toujours la même chose. Et puis voilà, j'ai passé ma matinée là-dessus, en sachant que mon père, il était derrière, juste à côté, en cellule.
Il était en garde à vue.
Voilà, en garde à vue, merci. Et voilà, puis je repars, et puis voilà. Et puis il m'arrivait même parfois, tranquille à l'école, alors que j'étais qu'une gamine, la police arrivait dans la classe. Tu viens, on a besoin de toi. C'était très gênant.
Oui, parce que, je me doute,
Voilà. Qu'est-ce que vont dire mes camarades ? Et qu'est-ce que je vais leur raconter ? Je ne peux pas aller dire que mon père a fait quelque chose que je ne savais même pas, en fait. Ah si, quelque part, si je savais que c'était mal, parce que, comme par hasard, quelques semaines auparavant, avec ma sœur qui était bien plus âgée que moi, puisqu'elle est née en 61 et moi en 68. Comment on fait les bébés, hein? Et donc, elle m'a expliqué. Et ça m'avait dit... Enfin, ça m'avait interloqué. Je me suis dit, jamais je me mettrais toute nue devant un homme. Je ne ferais pas de bébé. Bon, bref. Truc de gamine. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai compris que mon père a poussé le bouchon là-dessus. Mais je me taisais. Je me taisais, mais j'avais bien compris. Et donc, tout le temps, je disais, je racontais au niveau de la police, devant les avocats, jusqu'à ce que je me retrouve devant le juge, mais pas au tribunal, étant donné que j'étais trop jeune.
Trop petite, oui.
Je suis passée devant le juge dans son cabinet. Ouais.
Le juge des enfants, vous êtes passée.
Voilà. Je ne devrais pas... il est mort, je peux le dire. C'était le juge Pascal, à l'époque. Et quand je lui ai raconté, je l'ai vu deux fois, si ma mémoire est bonne, pour la deuxième fois, il m'a dit, tu apprends bien à l'école? Je n'ai pas osé lui dire, donc que c'est ce que je reprends tout à l'heure, je n'ai pas osé lui dire, c'est bien, cette leçon-là, tu l'as apprise par cœur, et mon père a été blanchi. Mais j'ai oublié un petit passage, c'est qu'entre-temps, durant le procès, ce juge avait autorisé mon papa aussi à revenir à la maison. Un soir, j'étais endormie et puis j'entendais « bum, bum, bum ». J'ai dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était une maison à étage, donc je suis descendue. Et dans l'entrée de l'escalier, je retrouve mon père assis en califourchon sur ma mère, en train de l'étrangler. Et sous le « boum, boum, boum », c'était sa tête qui claquait sur le sol.
Non.
J'avais donc entre 12 et 13 ans. Et donc là, je l'ai attrapé par la ceinture du pantalon. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et le callback derrière. Je n'ai pas compris. J'avais la force.
Il s'est arrêté.
Je pense que c'était la rage qui a fait que j'avais cette force. Et donc, j'ai décollé du sol. Et j'ai dit à maman, ouvre la porte. Elle l'a ouverte. Et j'ai jeté mon père. On a fermé la porte. Et il n'est plus revenu. Et voilà, c'était donc après, suite à ça, il y a eu un beau-père. Ce beau-père avait un frère qui a aussi abusé de moi. J'ai passé le passage, j'ai réussi à y échapper. Mais suite à ça, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue. Suite à ça, donc je vais pas raconter non plus les préjudices que j'ai eus avec mon père parce qu'il m'a renié. On passe. Il faudra lire mon livre pour connaître la suite.
Votre livre, vous l'avez produit sur Internet, votre livre, hein, c'est ça?
Mon livre, je l'ai écrit en 6 mois.
Oui.
À cause de ma petite sœur qui m'a donné la rage alors que je l'avais commencé quelques années auparavant et que j'avais mis de côté. J'avais fait 600 km pour la rejoindre et toute heureuse, comme toujours, de la retrouver dans le Nord puisque je suis originaire du Nord. Hein. J'ai grandi là-bas.
Mm-hmm.
Et j'étais toujours accueillie à bras ouverts, mais ce jour-là, je ne sais pas, la mouche l'a piquée, elle était mal vissée, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle m'a fait des reproches qui n'étaient pas fondés, mais qui m'ont vexée.
Et c'est ce qui vous a fait...
Ça m'a fait mal. Oui. Ça, Et en fait, j'avais fait 600 km dans les 8 heures, même pas 8 heures qui suivaient. Je n'avais même pas dormi de la nuit. Je reprenais la route en sens inverse. J'avais mon petit frère qui me disait « Reviens, reviens, je fais un barbecue ce soir. » Je dis non, non, non. Et je ne fumais pas dans ma voiture. Je ne fume pas dans ma voiture, mais j'avais tellement la niaque. Et fort heureusement, il faisait chaud ce jour-là. Donc, j'avais pu ouvrir mon toit ouvrant. Sur 600 km, j'ai craqué un paquet de cigarettes. En pleurant, tout le long de la route. Et je suis rentrée, j'ai pris mon ordinateur et j'ai repris mon livre depuis le départ. J'ai arrêté ce que j'avais... Enfin, j'ai pas arrêté.
Continué.
Non, j'ai pas continué parce que j'avais trop épilogué sur le premier et je trouvais que c'était un peu lourd à mon goût, bien que. Bon, bref. Et donc, j'ai repris depuis zéro. En fait, j'ai racheté un deuxième ordinateur et j'ai mis l'autre à côté pour le lire, pour lire les grandes lignes et réduire. Par exemple, j'avais expliqué la situation de mes parents. Avec ma mère qui était battue, donc j'avais donné des détails par rapport à ce que j'avais su, et puis mon père, voilà, Alors que là, j'ai non. Ma mère était battue, mon père était cocu, point. Et ils se sont rencontrés, point. Alors qu'avant, j'avais 24 pages, là, j'ai peut-être une page.
Vous avez réduit, en fait.
Voilà.
Revenons-en à donc, votre père qui vous renie. Il vous renie pourquoi ? Parce que vous avez témoigné contre lui, donc.
Tout à fait, parce que lui, il renie. En fait, du fait qu'il me renie, il ne me prend plus les week-ends, parce que chaque les enfants ont droit à la visite chez leur papa chaque week-end.
Mais il n'a pas été en prison pour tout ça ?
Non, il a juste pris de la... Non, il a été blanchi. J'ai été menteuse. Le juge l'a dit. C'est bien, cette leçon-là, tu l'as apprise par cœur.
Il vous a accusé...
Mon père a été blanchi.
D'accord, il a accusé votre mère de vous avoir mis ça dans la tête.
Non. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Oui. Oui, je dis non parce que c'est pas lui qui l'a fait, parce que du coup, oui, mais oui, je réponds oui à votre question.
D'accord.
Oui, voilà.
Donc du coup, vous êtes resté avec votre mère le reste de votre adolescence jusqu'à votre majorité.
Je suis restée, voilà, mais il y a eu, comme je vous disais, un beau-père. Il y a eu, et ce beau-père avait un frère qui a essayé d'abuser de moi. Et donc, j'ai pas osé dire à ma mère qu'il avait essayé d'abuser de moi. Parce que je me suis dit, on va encore me traiter de menteuse.
Oui. Vous savez qu'encore aujourd'hui...
Et je l'ai dit bien plus tard. Et puis elle m'a dit, il a réussi à ses fins. Sinon, j'ai réussi à me sauver.
Vous savez qu'encore aujourd'hui, lorsque il y a des agressions sexuelles dans le cadre de la famille, dans 70% des cas, la parole de l'enfant n'est pas prise en compte crue, en fait. Et c'est oui. assez terrible, mais ce que vous nous dites là, eh bien, reflète... Alors, ça ne change toujours pas, en fait, aujourd'hui.
Non, mais il n'y a rien qui change, justement. On va parler... Je vais en arriver au féminicide, et par rapport à ma vie, et par rapport à ma nièce, qui en est morte. Donc, voilà. Allez, je vais abréger mon enfance.
Oui.
J'en arrive à mon premier mari. Mon premier mari, gendarme. Avant ça, j'avais un copain. Mon premier copain. Et que ma famille n'aimait pas parce que c'était un chômeur professionnel. Et bref. Et je rencontre un homme bien, de belle. Il présentait bien, une belle prestance et tout. Et qui sort de l'école des sous-officiers de la gendarmerie.
Et je vais vous arrêter là. Nous allons marquer une petite pause. Je vous arrête là parce que on va marquer une petite pause avant que vous n'alliez plus loin dans votre récit, d'accord ?
D'accord, il n'y a pas de souci.
On se retrouve dans quelques secondes, Aline. À tout de suite.
D'accord.
Pour l'instant, nous sommes avec Aline qui nous parle de son livre ce soir, un livre qu'elle a écrit en 6 mois. Elle nous dira, Aline, tout à l'heure où on peut trouver ce livre, bien évidemment. Nous sommes arrivés à la rencontre avec votre premier mari, Aline, qui sort donc de l'école de gendarmerie, si j'ai bien compris.
C'est ça. J'ai à cette époque 17 ans. Et puis, ben voilà, je suis amoureuse, c'est un bel homme. Ma famille, ma mère surtout, me dit « Enfin, un homme qui a la tête sur les épaules, comparé à mon copain que j'avais, qui était chômeur professionnel et menteur aussi. » Enfin bref, qui avait tous les vices. Donc, lui, la belle étoile, et puis moi, c'est pareil, je suis donc amoureuse, et puis je me dis, il y a la sécurité de la famille, gendarme, je me projetais dans un bel avenir, tout simplement.
Oui, vous vous projetiez dans un avenir où, pour la première fois, je pense que vous alliez être protégée par celui que vous aviez choisi.
C'est ça, surtout que je reviens un petit peu, une petite parenthèse sur mon enfance où le fait que papa part, à 16 ans, je deviens soutien de famille. Et puis ça me cassait les pieds de donner tout mon salaire et de ne rien avoir. Et puis là, ben voilà. Bref, j'ai parti dans une vie de femme. Je me voyais bien avec lui. Et en plus, comme il était gendarme mobile, donc souvent en déplacement, il m'écrivait tous les jours et il était tellement amoureux qu'il m'écrivait 2 à 3 lettres par jour. Et quand il trouvait un pétale de rose en forme de cœur, il me l'envoyait dans sa lettre. Quand il partait à Nouméa ou je ne sais où, Il m'envoyait des fleurs, des biscuits, c'est tout. Et tout le temps, les lettres, et même ça, comme il m'en écrivait tellement, il les numérotait. C'était le grand amour pour moi. C'était le bonheur. Je me voyais vraiment heureuse avec lui. Et un jour, il était en déplacement sur Paris, puisque un mobile, ça bouge partout. Et il me téléphone en me disant « J'aimerais un enfant de toi ». J'avais 19 ans. J'étais ravie. C'était le bonheur. J'étais OK. Donc, j'ai arrêté ma pilule. Et puis, bon, j'ai quand même attendu un an pour que ça se fasse, pour que ma fille arrive. Et toujours le bonheur, voilà. Et puis, c'est là un petit peu que ça a commencé à dégénérer. C'est-à-dire que j'étais entre le troisième et quatrième mois de grossesse. Mais je ne le savais pas, étant donné que j'étais toujours indisposée. Donc, j'ai fait ma déclaration de grossesse assez tard, à cause de ce fait. Et on était dans la voiture. J'avais l'enveloppe sur le tableau bord pour cette déclaration de grossesse. Mais je n'avais pas de timbre. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, malgré que nous étions en 86. Oui, 89, pardon. 86, c'est quand je les connais. Donc 89. Et il me dit, c'est quoi cette lettre? J'ai dit, ben voilà, c'est ma déclaration pour la grossesse. T'as un timbre? Ben non, j'en ai pas. Non, pardon, je m'excuse. Pourquoi t'as pas mis de timbre? Ben parce que j'en ai pas. Et puis lui répond, c'est pas grave, on n'est pas plus avancé, on est vendredi, la poste est fermée, voilà quoi. Il ne fallait pas que je dise ça. Là, j'ai pris un de ces coups de poing entre les deux yeux. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des papillons autour. Alors que j'ai déjà pris des bûches. Mais là, j'ai vu des papillons. Il a fallu que je me ressaisisse avant de pouvoir quitter la voiture. Et j'étais pas loin de chez ma mère, puisqu'elle habitait là, pas loin. Donc, je me lui ai dit, je m'en vais, t'as pas à me frapper, je vais chez ma mère. Donc, il est descendu de la voiture, puisqu'on était à l'arrêt d'un passage à niveau, à ce moment-là. Il est descendu de la voiture en me disant, « Non, remonte, excuse-moi, je te promets, je te frapperai plus, je te jure, je le ferai plus, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. » Et c'est une parole qu'il a tenue.
C'est une parole qu'il a tenue. Oui. Il ne vous a jamais refrappé.
Si.
Ah.
C'est une parole qu'il a tenue jusqu'à ce que je tombe enceinte du deuxième enfant.
D'accord.
Et donc, il était quand même aussi... Entre-temps, il était aussi un pervers sexuel, c'est-à-dire... Il avait entendu ou lu dans un magazine, à cause d'un psychiatre ou psychologue, pas bien dans sa tête en tout cas, que ne pas se laver, les odeurs, excitait. Donc, il me cassait les pieds pour que... Je me lave pas. Et moi, je peux pas. Je lui ai dit, je peux pas. Moi, si je me lave pas, ça me gratte. Mais lui, en tout cas, il l'a fait. Et franchement, c'était dégoûtant. Il m'obligeait à la l'affilation. Je devenais un petit peu... j'étais soumise. Pas un petit peu. Je devenais soumise. Quand on était en présence de sa famille... c'était lui, il montrait que c'était lui que le roi, quoi. Et quand je le retrouvais à la caserne, je retrouvais mon homme, gentil, bon. Et ça, c'était avant que je tombe enceinte.
Mais est-ce qu'il y avait des circonstances spéciales dans lesquelles il vous frappait, cet homme?
Oui.
Est-ce qu'il avait bu, par exemple? Est-ce qu'il avait bu?
Pas du tout, il buvait. Oh non, il buvait pas. Il ne pouvait pas non plus prendre de drogue étant un gendarme. Non, et boire, non, il buvait pas.
Pas du tout, d'accord.
Pas du tout, non, il buvait pas. Ça, je peux, non. C'était ma tête. Je le mettais en colère parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que pour du sucre. Un jour, par exemple, il rentre du travail, il m'avait dit, j'ai envie de crêpes. Je dis, j'ai pas tous les ingrédients. Il faut ça, si, là. Il voulait de la cassonade. On était en Alsace. Il voulait de la cassonade comme dans le Nord, qui qui est humide et voilà. Et il revient en me disant, je n'ai pas trouvé de cassonade. Sur le paquet, sur l'emballage, je vois cassonade, mais je n'avais pas vu l'intérieur. Enfin, le composant. Et donc, je lui dis, bah, si, cassonade, bah, voilà, c'est de la cassonade, tout simplement. Puis il me dit, non, c'est pas de la cassonade. Et je prends le dictionnaire, bêtement, je dis, cassonade, sucre, roux, moulu, voilà, voilà, c'est ça. Et du coup, il s'est vexé. Et du coup, je me suis pris un de ces coups de poing, mais tellement majestueux, que j'arrivais plus à respirer. Tout mon cartilage, d'ailleurs, aujourd'hui, est encore écrasé. Il n'a pas écrasé. Et j'avais deux cocards. Et une joue en chou-fleur. Et même que j'avais été photographiée par une voisine. Je pars un petit peu trop vite dans la conversation. C'est-à-dire que on était d'abord dans... La caserne, on était d'abord en tant que célibataire, lui, on n'était pas marié, donc il avait un studio dans la caserne. Mais on traversait le boulevard de Strasbourg, de la rue du Nidec, pour arriver à la rue de Salles, où il y avait tous les logements des militaires gendarmes. Où il y avait les 110 bonhommes, et de l'autre côté, c'était les célibataires. Et c'est là qu'on était. Et je parle. Il m'a tellement fait voir cet homme que je pars un petit peu en voir, en vrille. Dans cette caserne, je l'appelle ma prison gendarmerie, parce que j'étais battue devant plein d'hommes. Ma mère ne m'a pas reconnue, tellement j'avais une figure en chou-fleur. Et personne n'a bougé son petit doigt, ni femme, ni homme. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai écrit dans mon livre. J'étais enceinte. Il m'a battu à coups de barre à rideau. Barre rideau en bois, la grosse barre qui fait 5 cm à peu près, ouais, le diamètre, enfin, 3, bon, bref, le diamètre.
Et devant, devant du monde, ça?
Non, oui, si on veut, pas au visuel, mais oculaire, ça c'est certain, puisque les murs c'était du carton. C'est-à-dire que dans son studio, il avait un petit cagibi. Au début, donc, on n'était pas mariés, rien du tout. Et ma fille, elle venait de naître. Et elle avait quelques mois et elle pleurait parce qu'elle faisait ses dents. Lui, on était en train de manger et lui n'entendait pas la télé. Ça l'insupportait d'entendre la petite qui pleurait. Alors il me dit, mais là, dans le cagibi. Mais ça ne changeait rien puisqu'il n'y avait pas de porte pour étouffer le bruit. Je rassure, la petite était dans son couffin. Hein, je la mettais pas par terre dans le cagibi. Hein. Je l'aurais pas jamais fait de ma vie. Mais donc voilà. Mais là, dans le cagibi, et accroche une couverture sur la barre à rideau qui se tenait juste au-dessus. Cette barre à rideau ne tenait pas. Tant et si bien que la porte, si pour le peu qu'on claquait la porte d'entrée, et même notre voisin à côté, si lui la claquait, cette barre, elle tombait. Pour vous dire comme elle tenait. Donc une couverture, c'était pas possible. Mais j'obéis. Je prends une couverture, des pinces à linge, une chaise, et j'essaye de mettre cette couverture. Bien sûr, à peine je touche cette barre, elle tombe. Une fois, deux fois, trois fois, et lui s'énerve. Incapable, bon à rien, mauvais à tout, tu sais rien faire, comme toujours. Quand j'étais enceinte, c'était sac à sperme. Qui allait mettre bas.
Mais vous êtes restée combien de temps avec cet homme, Aline?
86 à 92. Et donc, il a voulu prendre cette barre à rideau. Et puis, forcément, ce que je faisais, il ne pouvait pas faire de miracle. Cette barre à rideau, elle tombe. Pas tenir. Et donc, je lui dis, t'as vu, j'ai raison. Et à chaque fois, je lui disais, t'as vu, j'ai raison, ou même n'importe quoi, ou pas avoir mis un tam sur une enveloppe, et puis s'il était mal vissé parce que sa journée n'était pas bien faite, j'en sais rien. Toujours, je m'en prenais. Et donc, il a pris cette barre à rideau, et il a commencé à me frapper. J'entendais cette barre qui fouettait l'air, j'entendais le souffle. Et j'ai dû avoir à peu près une vingtaine de coups. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, que je ne voulais pas, et j'avais pas le droit à la contraception. Et donc j'avais encadré mon ventre avec mes jambes, encadré ma tête avec mes bras, et j'étais pleine de coups. Et la gendarmerie le savait, les gendarmes le savaient.
Comment ça, les gendarmes le savaient? Ils le savaient comment?
Ça s'entendait, par exemple aussi, avant d'avoir mes enfants, quand on était encore tout jeune, fiancé, je prends le train, je le rejoins, et c'était à coup monté, hein. Ça c'était clair, comme de l'eau de roche. Donc on se retrouve, forcément, on fait l'amour. Et il me dit, dis-moi que t'es une salope. Non, j'ai pas envie de dire que je suis une salope, je suis pas une salope. Si, dis-moi que t'es une salope, allez, vas-y, dis-moi que t'es une salope. Et puis il me faisait tellement suer que j'ai fini par dire je suis une cochonne, parce que salope, c'est... même que cochonne me dérangeait, mais bon, ça restait moins que salope dans ma tête. Donc j'ai fini par dire je suis une cochonne. Allez, plus fort, je suis une cochonne. Le lendemain, on part, on sort de l'appartement, donc on est dans la caserne, on traverse la cour au pas avec la voiture. Et on rencontre un de ses collègues. Il s'arrête, mon mari s'arrête pour discuter avec lui. Et puis l'autre lui dit « Punaise, t'as entendu cette nuit ?» Il y en a une qui s'est fait défoncer l'oignon. Je reprends les mots, hein, c'est pas les miens. Et moi, j'aurais pu me mettre dans un trou de souris, je l'aurais fait. J'étais vraiment mal à l'aise. Lui, il rigolait comme un âne, tout simplement, comme un âne. Enfin bref, voilà. Et je savais que c'était un peu monté dans le sens. Il a dû dire, tiens, ma copine, elle arrive. Tu vas voir ce que je vais lui mettre ce soir. Voilà. Et puis, il y a eu plein d'autres choses au niveau sexuel. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est un détail.
Il était bien dérangé, cet homme. Ça,
oui.
Vous êtes allé quand même porter plainte. Vous êtes allé.
Alors, voilà. Après, on est arrivé dans l'autre côté de la gendarmerie, c'est-à-dire où il y avait toutes les familles, où on se retrouvait avec les 110 hommes. Et donc, ces 110 hommes m'entendaient. Le soir, je me faisais frapper parce que moi, j'avais un rituel, c'est le ménage à telle heure, et la poubelle, je la sortais à telle heure. Donc, forcément, je traversais la cour à telle heure. Et les femmes savaient. Et le matin, oh, on a entendu. Il t'a fait quoi? On a entendu que tu t'as fait voir tes bleus et machin. Voilà, on a entendu. Mais si tu as entendu, pourquoi t'es pas venu frapper à la porte et lui dire « Mais arrête un petit peu de cogner ta bonne femme !» Non, il n'y a personne qui a fait ce geste de dire « Arrête !» Non, personne. On venait me voir pour constater, mais pas pour arrêter. Alors que j'étais censée être dans un lieu de sécurité.
On va marquer une nouvelle pause, Aline. Ça va nous permettre de respirer parce que c'est très lourd ce que vous nous racontez. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
À tout de suite.
À tout de suite. Nous sommes avec Aline qui a écrit un livre dont elle nous livre quelques passages ce soir. L'un de nos auditeurs nous dit que c'est très lourd hein, ce que vous nous racontez ce soir et que ce livre, il va falloir s'accrocher pour le lire.
Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils en pleurent. Il y a beaucoup de gens qui... Puis, ils commencent à le lire, ils ne peuvent pas s'en détacher parce qu'il y a beaucoup de sujets. Je rebondis toujours sur des mauvaises choses. Je ne sais pas, je suis née sous une mauvaise étoile. La vie commence seulement à être un peu plus claire avec moi, mais bon, bref. Mais oui, c'est très lourd. Donc, j'avais fait aussi appel à force de côtoyer un petit peu les... Parce que quand je suis arrivée de l'autre côté de la gendarmerie avec les familles, donc quand il faisait beau, on arrivait dans le jardin avec les enfants. C'était ma seule chose qui était autorisée de sortir dans ce jardin. Et autrement, j'étais séquestrée puisque je n'avais pas le droit de sortir et ni de téléphoner, étant donné qu'il y avait la facture détaillée qui pouvait me...
Oui, il vous pistait en fait. Il était jaloux, cet homme ?
Oui. Très jaloux. Mais j'avais même pas le droit de téléphoner à ma mère. Je vois pas la jalousie qu'il pouvait y avoir. À personne, d'ailleurs. J'avais pas le droit de téléphoner. Point. Et donc, un jour, donc, je suis dehors avec mes enfants, il fait beau, et puis certaines femmes. Et puis, comme j'avais demandé à plusieurs d'entre elles de faire des témoignages, et toutes m'ont refusé, catégoriquement. Hein. De toute façon, la gendarmerie, ils sont tous solidaires. Hein. J'entends tout, je vois tout, mais je dis rien. Les trois singes. Moi, je les appelle comme ça dans mon livre. Les trois singes, ma prison gendarmerie. J'étais en prison dans cette gendarmerie. Personne n'a bougé le petit doigt. Et tout le monde savait. On m'a vu avec la tête de chou-fleur. Et ça, je trouve ça inadmissible. Parce que c'est assistance à personne en danger.
Bien évidemment.
Voilà. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu...
Vous êtes resté combien de temps donc avec cet homme?
Jusqu'en 92. Donc,
et vous avez réussi à vous...
Alors, je reviens sur ce jardin, excusez-moi. Voilà, c'était ça, avec mes enfants. Et l'une d'entre elles, de ces dames, me dit, puisque je demandais toujours des attestations et que c'était toujours refusé, « Tu veux parler au colonel? Regarde, il est là. Il était au bout de la cour. » Elle n'avait pas fini sa phrase, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je suis allée voir cet homme. Et je lui ai dit, voilà, le gendarme, me bat. Ah bon? Ah, ben, vous me l'apprenez. Écoutez, je vais lui en parler. Écoutez, s'il recommence, n'hésitez pas à venir me voir. Or, son bureau se trouvait de l'autre côté du boulevard, là où il y a les célibataires et tous les gradés, là où il y a le poste de police, et on n'y rentre pas comme ça. Alors, on n'y rentre pas comme ça, forcément, j'y passe. Eh ben, c'est bien, le téléphone arabe, tout le monde sait. Donc, si tout le monde sait... Ça viendrait aux oreilles de mon mari. Je me suis dit, quelle andouille. Dire ça, c'est plutôt pendant que mon mari, il le sait, en train de travailler là, venez me voir. C'est plutôt sa réaction qui aurait dû passer dans sa tête. Bon, bref. Peu de temps après, cette gendarmerie recrute de nouveaux gendarmes, mais n'a pas suffisamment de logements pour recueillir les nouveaux venus. De ce fait, ils ont pris des logements civils à l'extérieur. Le premier et le seul, parce que les autres, quand on est installé, on n'a pas envie de déménager, on est là dans un lieu sécurisé et tranquille. Donc, pourquoi aller s'embêter, aller voir ailleurs, sauf mon mari. Et on l'autorise à partir. Alors que, quand j'avais parlé au colonel, il s'était calmé, entre guillemets. Parce que quand on était dans les magasins, les endroits privés, en dehors de la gendarmerie, le magasin, je me prenais le caddie dans le talon d'Achille, ou alors il me disait « attrape cet article en haut », et puis il en profitait pour me donner un coup de coude dans les côtes. Bref, il y a plein de choses. C'était tout le temps de la torture, c'était tout le temps.
On a plus que 8 minutes ensemble, Aline, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Est-ce que vous pouvez aller à la fin de votre histoire et surtout, les auditeurs attendent que vous leur parliez de votre nièce, parce que vous avez évoqué votre nièce.
Oui, alors voilà. Donc, vite fait, j'ai vite abrégé avec ce mari. J'ai voulu le quitter. Je l'ai quitté. Grâce à Dieu d'arriver dans ses logements à l'extérieur, c'est comme ça que j'ai pu me libérer avec des gens qui n'avaient rien à faire avec l'armée. Mes voisins m'ont aidé à prendre mes affaires pour mes enfants. Et puis voilà.
Vous êtes quoi ? Vous êtes échappé ?
Je me suis échappé, oui. Je me suis échappé. Je lui ai mis les clés, le double de clés dans la boîte aux lettres. Et je suis partie 15 jours, plus que 15 jours. Je suis partie 15 jours sans lui donner de nouvelles et lui s'en mordait les doigts. Bref, on verra dans mon livre pour celles qui sont intéressées. Ceux qui sont intéressés, pardon. Et donc, je voulais arriver dans des foyers. Et malheureusement, les foyers SOS Femmes Battues étaient tellement blindés que portes fermées. Donc, j'ai dû me rabattre sur SOS Voyageurs et dormir avec des clochards, sur une paillasse où je n'aurais pas fait dormir mon chien. Et on était, moi et mes deux enfants, à dormir sur cette même paillasse. Et j'avais peur de dormir, de les écraser, donc je ne dormais pas. Et puis j'avais peur d'être violée, mais finalement, ces SDF, enfin, bref, étaient très corrects. J'ai jamais eu de problème avec eux, mais j'étais quand même dans un endroit insalubre avec deux bébés. Après, par la suite, j'ai réussi à obtenir deux foyers. Le premier, comme tous les autres, de toute façon, il y a un temps limité. On est obligé de partir pour faire un roulement. Super, c'est génial. Alors qu'il y a plein de femmes à la porte qui sont battues. Et il ne faut pas oublier que la population s'agrandit. Et donc, forcément, il faut voir l'évolution avec ce qui va avec. Et donc, j'ai eu deux foyers. Et un jour, je me suis réveillée un matin en disant, parce qu'il y avait toujours une éducatrice, il n'y a plus de lait dans le frigo. Elle me dit, alors je lui dis, est-ce qu'on peut aller en réserve chercher du lait? Elle me dit, bah, c'est pas la peine qu'on descende, étant donné qu'il n'y en a pas, on n'en a pas reçu, puisque dans les foyers, à mon époque, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se goupille, c'était les invendus des magasins. Donc, il n'y avait plus. Débrouille-toi pour donner à manger à tes enfants le matin, voilà. Donc, j'ai partagé le peu de lait qui me restait et avec plein d'eau et plein de sucre pour essayer de remplir les estomacs de mes enfants. Et il m'en restait 2 francs dans la poche. À l'époque, c'était encore les francs. Donc, j'ai été mettre cette pièce dans un distributeur de préservatifs et je me suis prostituée pour pouvoir nourrir mes enfants. Parce que le système social, il faut toujours attendre 2 à 3 mois avant que ça se mette en route. Voilà. Et en plus, on arrive dans des foyers, il n'y a pas à manger. Voilà, on est accueilli, on est à toi, mais on n'a pas à manger. Parce qu'il faut attendre les invendus. Et c'est triste à entendre. Surtout en France. Et voilà. Et je ne sais plus. J'ai plein de choses encore à dire. Il y a mon livre qui dit plein
mais
de choses.
On va abréger un peu parce que vous n'allez pas tout dire de ce qui se passe dans le livre. Il faut en laisser un peu pour celles et ceux qui veulent le lire. Ce livre, on le trouve où, Aline?
Alors, comme je ne suis pas connue, je suis dans toutes les librairies, mais sur commande. Je suis également survendue à Amazon. Sachez qu'à la FNAC, il y a 5% de réduction. Et puis voilà, dans toutes les librairies.
Il s'appelle comment ce livre? Faut que vous
le
disiez.
Alors, c'est un jeu de mots. Je ne parle pas de la douceur d'un câlin, étant donné dans ma vie que je n'ai jamais eu de douceur entre ma famille, ma jeunesse et aujourd'hui ma vie de femme. Donc, il n'y a jamais eu de douceur. Je ne parle pas de douceur. Je parle de l'heure, pas de douce heure. Aline Jourdain.
Alice Jourdain.
Aline.
Aline, Jourdain. Aline, c'est ce que j'ai dit. Aline.
Ah, pardon, j'ai
Jourdain,
compris. Alice,
Aline Jourdain, de douce heure.
Pas de douce heure.
Pas de douce heure. De toute façon, on va le partager sur notre site de la Libre Antenne, hein, sur le Facebook, le groupe de parole de Facebook. Vous nous parliez de votre nièce qui se trouve dans
Alors
le livre
donc,
aussi.
C'est ce que je disais. Oui, 2 minutes, ça serait bien de savoir que comme moi, j'ai trouvé les portes des foyers fermées. Il a fallu que je me rabatte sur SOS Voyageurs. Et donc, elle était également battue, chose que je n'ai su que quand elle est morte. Donc, cette dame de 35 ans seulement s'était rendue également dans un foyer, même plusieurs, elle a essayé. Mais les portes, tout comme moi, étaient fermées. Parce que c'était blindé. Donc elle est rentrée à la maison. Et quelques semaines après, elle est morte de féminicide. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça change.
Alors, vous évoquez, Aline, tout de même des foyers à une époque où c'était les francs. Aujourd'hui, les choses ont tout de même évolué.
Je vous parle de 92 avec moi.
Oui.
Ma nièce est morte en 2019.
D'accord.
Il y a 2 ans.
D'accord, parce que rien n'a changé. D'accord, vous ne m'aviez pas précisé 2019.
Oui, excusez-moi. Voilà.
D'accord,
27 ans après,
oui.
Rien n'a changé. Et ce n'est pas normal. Je ne veux pas être méchante. Je ne suis pas... Je suis humaine. On trouve des solutions pour les émigrés, mais on ne trouve pas des solutions pour le féminicide.
il y a des solutions. Il y a des solutions aujourd'hui, mais pas assez. Vous avez raison de le dire. Il y a aujourd'hui un manque cruel de solutions et différents systèmes qui ne sont pas au point. Hein, on parle des...
Justement, parce que si ma nièce avait été accueillie, aujourd'hui, je lui parlerais encore.
Non, mais vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, il y a, je l'ai constaté, un tas de femmes qui sont en fuite et qui dorment parfois à la rue, parfois avec leurs enfants, qui ne savent où aller parce que les associations sont submergées
de
demandes.
Elles ne sont pas derrière.
Mais elles sont submergées de demandes,
surtout.
Oui,
elles sont submergées parce que, justement, il y a un manque. C'est ce que...
En tout cas, Aline, on va prendre le temps de bien mettre votre livre sur notre site. Et puis, je vous remercie mille fois d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la vie que vous avez devant vous. Et puis, succès à ce livre pour qu'on puisse prendre conscience que tout ça est encore bien de notre époque. Je vous embrasse, Aline. Bonne soirée.